Relation de la mort du chevalier de la Barre.
Note 3.
Il semble, monsieur, que toutes les fois qu'un génie bienfaisant cherche à rendre service au genre humain, un démon funeste s'élève aussitôt pour détruire l'ouvrage de la raison. À peine eûtes-vous instruit l'Europe par votre excellent livre sur les délits et les peines, qu'un homme,
note 4,
qui se dit jurisconsulte, écrivit contre vous en France. Vous aviez soutenu la cause de l'humanité, et il fut l'avocat de la barbarie. C'est peut-être ce qui a préparé la catastrophe du jeune chevalier de la Barre.
Note 5.
Âgé de 19 ans et du fils du président d'Étalonde, qui n'en avait pas encore 18. Avant que je vous raconte, monsieur, cette horrible aventure qui a indigné l'Europe entière, excepté peut-être quelques fanatiques ennemis de la nature humaine, permettez-moi de poser ici deux principes que vous trouverez incontestables. Premièrement, quand une nation est encore assez plongée dans la barbarie pour faire subir aux accusés le supplice de la torture, c'est-à-dire pour leur faire souffrir 1000 morts au lieu d'une, sans savoir s'ils sont innocents ou coupables, il est clair au moins qu'on ne doit point exercer cette énorme fureur contre un accusé quand il convient de son crime et qu'on n'a plus besoin d'aucune preuve. Deuxièmement, il est aussi absurde que cruel de punir les violations des usages reçus dans un pays, les délits commis contre l'opinion régnante et qui n'ont opéré aucun mal physique, du même supplice dont on punit les parricides et les empoisonneurs. Si ces deux règles ne sont pas démontrées, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de raison sur la terre. Les hommes sont abandonnés à la plus capricieuse tyrannie, et leur sort est fort au-dessous de celui des bêtes. Ces deux principes établis, je viens, monsieur, à la funeste histoire que je vous ai promise. Il y avait dans Abbeville, petite cité de Picardie, une abbesse,
note 6,
fille d'un conseiller d'État très estimé. C'est une dame aimable, de mœurs très régulières, d'une humeur douce et enjouée, bienfaisante et sage, sans superstition. Un habitant d'Abbeville,
note 7,
nommé Belleval, âgé de 60 ans, vivait avec elle dans une grande intimité, parce qu'il était chargé de quelques affaires du couvent. Il est lieutenant d'une espèce de petit tribunal qu'on appelle l'élection, si on peut donner le nom de tribunal à une compagnie de bourgeois uniquement préposée pour régler l'assise de l'impôt appelée la taille. Cet homme devint amoureux de l'abbesse, qui ne le repoussa d'abord qu'avec sa douceur ordinaire, mais qui fut ensuite obligé de marquer son aversion et son mépris pour ses importunités trop redoublées. Elle fit venir chez elle, dans ce temps-là, en 1764, le chevalier de la Barre, son neveu, petit-fils d'un lieutenant général des armées, mais dont le père avait dissipé une fortune de plus de 40 000 livres de rente. Elle prit soin de ce jeune homme comme de son fils, et elle était prête de lui faire obtenir une compagnie de cavalerie. Il fut logé dans l'extérieur du couvent, et madame, sa tante, lui donnait souvent à souper, ainsi qu'à quelques jeunes gens de ses amis. Le sieur Belleval,
note 8,
exclu de ses soupers, se vengea en suscitant à l'abbesse quelques affaires d'intérêt. Le jeune Labarre prit vivement le parti de sa tante et parla à cet homme avec une hauteur qui le révolta entièrement. Belleval résolut de se venger. Il sut que le chevalier de Labarre et le jeune d'Étalonde, fils du président de l'élection, avaient passé depuis peu devant une procession sans ôter leur chapeau. C'était au mois de juillet 1765. Il chercha dès ce moment à faire regarder cet oubli momentané des bienséances comme une insulte préméditée faite à la religion. Tandis qu'il ourdissait secrètement cette trame, il arriva malheureusement que, le 9 août de la même année, on s'aperçut que le crucifix de bois posé sur le pont neuf d'Abbeville était endommagé, et l'on soupçonna que des soldats ivres avaient commis cette insolence impie. Je ne puis m'empêcher, monsieur, de remarquer ici qu'il est peut-être indécent et dangereux d'exposer sur un pont ce qui doit être révéré dans un temple catholique. Les voitures publiques peuvent aisément le briser ou le renverser par terre. Des ivrognes peuvent l'insulter au sortir d'un cabaret, sans savoir même quel excès ils commettent. Il faut remarquer encore que ces ouvrages grossiers, ces crucifix de grand chemin, ces images de la Vierge Marie, ces enfants Jésus qu'on voit dans des niches de plâtre au coin des rues de plusieurs villes, ne sont pas un objet d'adoration tel qu'ils le sont dans nos églises. Cela est si vrai qu'il est permis de passer devant ces images sans les saluer. Ce sont des monuments d'une piété mal éclairée, et au jugement de tous les hommes sensés, ce qui est saint ne doit être que dans le lieu saint. Malheureusement, l'évêque d'Amiens, étant aussi évêque d'Abbeville, donna à cette aventure une célébrité et une importance qu'elle ne méritait pas.
Note 9.
Il fit lancer des monitoires. Il vint faire une procession solennelle auprès de ce crucifix. Et on ne parla dans Abbeville que de sacrilège pendant une année entière. On disait qu'il se formait une nouvelle secte qui brisait tous les crucifix, qui jetait par terre toutes les hosties et les perçait à coups de couteau. On assurait qu'elles avaient répandu beaucoup de sang. Il y eut des femmes qui crurent en avoir été témoins. On renouvela tous les contes calomnieux répandus contre les Juifs dans tant de villes de l'Europe. Vous connaissez, monsieur, à quel excès la populace porte la crédulité et le fanatisme, toujours encouragés par les moines. Le sieur Belval.
Note 10.
Voyant les esprits échauffés, confondit malicieusement ensemble l'aventure du crucifix et celle de la procession, qui n'avait aucune connexité. Il rechercha toute la vie du chevalier de la barre. Il fit venir chez lui valets, servantes, manœuvres. Il leur dit d'un ton d'inspiré qu'ils étaient obligés, en vertu des monitoires, de révéler tout ce qu'ils avaient pu apprendre à la charge de ce jeune homme. Ils répondirent tous qu'ils n'avaient jamais entendu dire que le chevalier de la barre eût la moindre part à l'endommagement du crucifix. On ne découvrit aucun indice touchant cette mutilation, et même alors il parut fort douteux que le crucifix eût été mutilé exprès. On commença à croire, ce qui était assez vraisemblable, que quelque charrette chargée de bois avait causé cet accident. Mais, dit Belval,
Note 11.
À ceux qu'il voulait faire parler, si vous n'êtes pas sûr que le chevalier de la barre ait mutilé un crucifix en passant sur le pont, vous savez au moins que cette année, au mois de juillet, il a passé dans une rue avec deux de ses amis à 30 pas d'une procession, sans ôter son chapeau. Vous avez ouï dire qu'il a chanté une fois des chansons libertines. Vous êtes obligé de l'accuser sous peine de péché mortel. Après les avoir ainsi intimidés, il alla lui-même chez le premier juge de la sénéchaussée d'Abbeville. Il y déposa contre son ennemi. Il força ce juge à entendre les dénonciateurs. La procédure, une fois commencée, il y eut une foule de délations. Chacun disait ce qu'il avait vu ou cru voir, ce qu'il avait entendu ou cru entendre. Mais quel fut, monsieur, l'étonnement de Belval lorsque les témoins qu'il avait suscités lui-même contre le chevalier de la barre dénoncèrent son propre fils comme un des principaux complices des impiétés secrètes qu'on cherchait à mettre au grand jour. Belval fut frappé comme d'un coup de foudre. Il fit incontinent évader son fils. Mais, ce que vous croirez à peine, il n'en poursuivit pas avec moins de chaleur cet affreux procès. Voici, monsieur, quelles sont les charges. Le 13 août 1765, 6 témoins déposent qu'ils ont vu passer 3 jeunes gens à 30 pas d'une procession, que les sieurs de la barre et d'Étalonde avaient leur chapeau sur la tête, et le sieur Moinel le chapeau sous le bras. Dans une addition d'informations, une Élisabeth Lacrivelle dépose avoir entendu dire à un de ses cousins que ce cousin avait entendu dire au chevalier de la barre qu'il n'avait pas ôté son chapeau. Le 26 septembre, une femme du peuple, nommée Ursule Gondalier, dépose qu'elle a entendu dire que le chevalier de la barre, voyant une image de Saint Nicolas en plâtre chez la sœur Marie, tourière du couvent, il demanda à cette tourière si elle avait acheté cette image
pour
avoir celle d'un homme chez elle. Le nommé Beauvalet dépose que le chevalier de la Barre a proféré un mot impie en parlant de la Vierge Marie. Claude dit Sélincourt.
Note 12.
Témoin unique dépose que l'accusé lui a dit que les commandements de Dieu ont été faits par des prêtres. Mais à la confrontation, l'accusé soutient que Sélincourt est un calomniateur et qu'il n'a été question que des commandements de l'Église. Le nommé Équet, témoin unique, dépose que l'accusé lui a dit ne pouvoir comprendre comment on avait adoré un dieu de pâte. L'accusé, dans la confrontation, soutient qu'il a parlé des Égyptiens. Nicolas Lavallée dépose qu'il a entendu chanter au chevalier de la Barre deux chansons libertines de corps de garde. L'accusé avoue qu'un jour, étant ivre, il les a chantées avec le sieur d'Étalonde, sans savoir ce qu'il disait. Que dans cette chanson, on appelle, à la vérité, Sainte Marie Magdeleine Putain, mais qu'avant sa conversion, elle avait mené une vie débordée. Il est convenu d'avoir récité l'ode à Priap du sieur Piron. Le nommé Équet dépose encore, dans une addition, qu'il a vu le chevalier de la Barre faire une petite génuflexion devant les livres intitulés « Thérèse philosophe »,« La tourière des Carmélites » et « Le portier des Chartreux ». Il ne désigne aucun autre livre, mais, au récollement et à la confrontation, il dit qu'il n'est pas sûr que ce fût le chevalier de la Barre qui fit ces génuflexions. Le nommé Lacour dépose qu'il a entendu dire à l'accusé « au nom du C », au lieu de dire « au nom du Père », etc. Le chevalier, dans son interrogatoire sur la sellette, a nié ce fait. Le nommé Pétignot dépose qu'il a entendu l'accusé réciter les litanies du C.
Note 13.
Telles à peu près qu'on les trouve dans Rabelais, et que je n'ose rapporter ici. L'accusé le nie dans son interrogatoire sur la sellette. Il avoue qu'il a en effet prononcé « c'est », mais il nie tout le reste. Voilà, monsieur, toutes les accusations portées contre le chevalier de la Barre. Le sieur Moinel, le sieur d'Étalonde, Jean-François Douville de Maillefeu et le fils du nommé Belval,
note 14,
auteur de toute cette tragédie. Il est constaté qu'il n'y avait eu aucun scandale public, puisque la Barre et Moinel ne furent arrêtés que sur des monitoires lancés à l'occasion de la mutilation du crucifix, mutilation scandaleuse et publique, dont ils ne furent chargés par aucun témoin. On rechercha toutes les actions de leur vie, leurs conversations secrètes, des paroles échappées un an auparavant. On accumula des choses qui n'avaient aucun rapport ensemble. Et en cela même, la procédure fut très vicieuse. Sans ces monitoires et sans les mouvements violents que se donna Belval, il n'y aurait jamais eu de la part de ces enfants infortunés ni scandale ni procès criminel. Le scandale public n'a été que dans le procès même. Le monitoire d'Abbeville fit précisément le même effet que celui de Toulouse contre les Calas. Il troubla les cervelles et les consciences. Les témoins, excités par Belval, comme ceux de Toulouse l'avaient été par le Capitoul David, rappelèrent dans leur mémoire des faits, des discours vagues, dont il n'était guère possible qu'on pût se rappeler exactement les circonstances, ou favorables ou aggravantes. Il faut avouer, monsieur, que s'il y a quelques cas où un monitoire est nécessaire, il y en a beaucoup d'autres où il est très dangereux. Il invite les gens de la lie du peuple à porter des accusations contre les personnes élevées au-dessus d'eux, dont ils sont toujours jaloux. C'est alors un ordre intimé par l'Église de faire le métier infâme de délateur. Vous êtes menacé de l'enfer si vous ne mettez pas votre prochain en péril de sa vie. Il n'y a peut-être rien de plus illégal dans les tribunaux de l'Inquisition. Et une grande preuve de l'illégalité de ces monitoires, c'est qu'ils n'émanent point directement des magistrats. C'est le pouvoir ecclésiastique qui les décerne. Chose étrange qu'un ecclésiastique, qui ne peut juger à mort, mette ainsi dans la main des juges le glaive qui lui est défendu de porter. il n'y eut d'interrogé que le chevalier et le sieur Moinel, enfants d'environ 15 ans. Moinel, tout intimidé, et entendant prononcer au juge le mot d'attentat contre la religion, fut si hors de lui qu'il se jeta à genoux et fit une confession générale comme s'il eût été devant un prêtre. Le chevalier de la Barre, plus instruit et d'un esprit plus ferme, répondit toujours avec beaucoup de raison et disculpa Moinel, dont il avait pitié. Cette conduite, qu'il eut jusqu'au dernier moment, prouve qu'il avait une belle âme. Cette preuve aurait dû être comptée pour beaucoup aux yeux de juges intelligents et ne lui servit de rien. Dans ce procès, monsieur, qui a eu des suites si affreuses, vous ne voyez que des indécences et pas une action noire. Vous n'y trouvez pas un seul de ces délits qui sont des crimes chez toutes les nations. Point de meurtre, point de brigandage, point de violence, point de lâcheté. Rien de ce qu'on reproche à ces enfants ne serait même un délit dans les autres communions chrétiennes. Je suppose que le chevalier de la Barre et M. d'Étalonde aient dit que l'on ne doit pas adorer un dieu de pâte. C'est précisément et mot à mot ce que disent tous ceux de la religion réformée. Le chancelier d'Angleterre prononcerait ces mots en plein parlement sans qu'ils fussent relevés par personne. Lorsque Mylord Lockhart était ambassadeur à Paris, un habitué de paroisse porta furtivement l'Eucharistie dans son hôtel à un domestique malade qui était catholique. Mylord Lockhart, qui le sut, chassa l'habitué de sa maison. Il dit au cardinal Mazarin qu'il ne souffrirait pas cette insulte. Il traita en propres termes l'Eucharistie de Dieu de pâte et d'idolâtrie. Le cardinal Mazarin lui fit des excuses. Le grand archevêque, Tillotson, le meilleur prédicateur de l'Europe,
note 15,
est presque le seul qui n'ait point déshonoré l'éloquence par de fades lieux communs ou par de vaines phrases fleuries comme cheminées, ou par de faux raisonnements comme Bourdalou. L'archevêque Tillotson, dis-je, parle précisément de notre Eucharistie comme le chevalier de la Barre. Les mêmes paroles respectées dans Mylord Lockhart à Paris et dans la bouche de Mylord Tillotson à Londres ne peuvent donc être en France qu'un délit local, un délit de lieu et de temps, un mépris de l'opinion vulgaire, un discours échappé au hasard devant une ou deux personnes? N'est-ce pas le comble de la cruauté de punir ces discours secrets du même supplice dont on punirait celui qui aurait empoisonné son père et sa mère et qui aurait mis le feu aux quatre coins de sa ville? Remarquez, monsieur, je vous en supplie, combien on a deux poids et deux mesures. Vous trouverez dans la 24e lettre persane de monsieur de Montesquieu, président à Mortier du Parlement de Bordeaux, de l'Académie française, ses propres paroles. Ce magicien s'appelle pape. Tantôt il fait croire que trois ne font qu'un, que le pain qu'on mange n'est pas du pain, ou que le vin qu'on boit n'est pas du vin, et mille autres choses de cette espèce. Monsieur de Fontenelle s'était exprimé de la même manière dans sa relation de Rome et de Genève sous le nom de Méraud et d'Ennegu.
Note 16.
Il y avait 10 000 fois plus de scandale dans ces paroles de messieurs de Fontenelle et de Montesquieu, exposées par la lecture aux yeux de 10 000 personnes, qu'il n'y en avait dans 2 ou 3 mots échappés au chevalier de la Barre devant un seul témoin, paroles perdues dont il ne restait aucune trace. Les discours secrets doivent être regardés comme des pensées. C'est un axiome dont la plus détestable barbarie doit convenir. Je vous dirai plus, monsieur. Il n'y a point en France de loi expresse qui condamne à mort pour des blasphèmes.
Note 17.
L'ordonnance de 1666 prescrit une amende pour la première fois, le double pour la seconde, etc., et le pilori pour la 6e récidive. Cependant, les juges d'Abbeville, par une ignorance et une cruauté inconcevables, condamnèrent le jeune d'Étalonde, âgé de 18 ans, premièrement, à souffrir le supplice de l'amputation de la langue jusqu'à la racine, ce qui s'exécute de manière que si le patient ne présente pas la langue lui-même, on la lui tire avec des tenailles de fer et on la lui arrache. Deuxièmement, on devait lui couper la main droite à la porte de la principale église. Troisièmement, ensuite, il devait être conduit dans un tombereau à la place du marché, être attaché à un poteau avec une chaîne de fer et être brûlé à petit feu. Le sieur d'Étalonde avait heureusement épargné, par la fuite, à ses juges l'horreur de cette exécution. Le chevalier de la barre étant entre leurs mains, ils eurent l'humanité d'adoucir la sentence, en ordonnant qu'il serait décapité avant d'être jeté dans les flammes. Mais s'ils diminuèrent le supplice d'un côté, ils l'augmentèrent de l'autre, en le condamnant à subir la question ordinaire et extraordinaire, pour lui faire déclarer ses complices, comme si des extravagances de jeune homme, des paroles emportées dont il ne reste pas le moindre vestige, était un crime d'État, une conspiration. Cette étonnante sentence fut rendue le 28 février de cette année 1766. La jurisprudence de France est dans un si grand chaos, et conséquemment l'ignorance des juges est si grande, que ceux qui portèrent cette sentence se fondèrent sur une déclaration de Louis XIV, émanée en 1682, à l'occasion des prétendus sortilèges et des empoisonnements réels commis par la Voisin, la Vigoureux, et les deux prêtres nommés Vigoureux et le Sage. Cette ordonnance de 1682 prescrit à la vérité la peine de mort pour le sacrilège joint à la superstition, mais il n'est question dans cette loi que de magie et de sortilège, c'est-à-dire de ceux qui, en abusant de la crédulité du peuple et en se disant magiciens, sont à la fois profanateurs et empoisonneurs. Voilà la lettre et l'esprit de la loi. Il s'agit dans cette loi de faits criminels pernicieux à la société, et non pas de vaines paroles d'imprudence, de légèreté, de sottises commises sans aucun dessein prémédité, sans aucun complot, sans même aucun scandale public. Les juges de la ville d'Abbeville péchaient donc visiblement contre la loi autant que contre l'humanité, en condamnant à des supplices aussi épouvantables que recherchés un gentilhomme et un fils d'une très honnête famille, tous deux dans un âge où l'on ne pouvait regarder leur étourderie que comme un égarement qu'une année de prison aurait corrigé. Il y avait même si peu de corps de délit que les juges, dans leur sentence, se servent de ces termes vagues et ridicules employés par le petit peuple, pour avoir chanté des chansons abominables et exécrables contre la Vierge Marie, les saints et saintes. Remarquez, monsieur, qu'ils n'avaient chanté ces chansons abominables et exécrables contre les saints et saintes que devant un seul témoin, qu'ils pouvaient récuser légalement. Ces épithètes sont-elles de la dignité de la magistrature? Une ancienne chanson de table n'est, après tout, qu'une chanson. C'est le sang humain légèrement répandu, c'est la torture, c'est le supplice de la langue arrachée, de la main coupée, du corps jeté dans les flammes, qui est abominable et exécrable. La sénéchaussée d'Abbeville ressortit au Parlement de Paris. Le chevalier de la barre y fut transféré. Son procès y fut instruit. 10 des plus célèbres avocats de Paris,
note 18,
signèrent une consultation par laquelle ils démontrèrent l'illégalité des procédures et l'indulgence qu'on doit à des enfants mineurs qui ne sont accusés ni d'un complot ni d'un crime réfléchi. Le procureur général,
note 19,
versé dans la jurisprudence, conclut à casser la sentence d'Abbeville. Il y avait 25 juges, 10 acquiescèrent aux conclusions du procureur général. Mais des circonstances singulières, que je ne puis mettre par écrit, obligèrent les 15 autres à confirmer cette sentence étonnante.
Note 20.
Le 4 juin 1766. Est-il possible, monsieur, que, dans une société qui n'est pas sauvage, 5 voix de plus sur 25 suffisent pour arracher la vie à un accusé, et très souvent à un innocent.
Note 21.
Il faudrait dans un tel cas de l'unanimité. Il faudrait au moins que les 3/4 des voix fussent pour la mort. Encore, en ce dernier cas, le quart des juges qui mitigeraient l'arrêt devrait, dans l'opinion des cœurs bien faits, l'emporter sur les 3/4 de ces bourgeois cruels qui se jouent impunément de la vie de leurs concitoyens sans que la société en retire le moindre avantage. La France entière regarda ce jugement avec horreur. Le chevalier de la Barre fut renvoyé à Abbeville pour y être exécuté. On fit prendre aux archers qui le conduisaient des chemins détournés.
Note 22.
On craignait que le chevalier de la Barre ne fût délivré sur la route par ses amis, mais c'était ce qu'on devait souhaiter plutôt que craindre. Enfin, le 1er juillet de cette année, se fit dans Abbeville cette exécution trop mémorable. Cet enfant fut d'abord appliqué à la torture. Voici quel est ce genre de tourment. Les jambes du patient sont serrées entre des haies. On enfonce des coins de fer ou de bois entre les haies et les genoux. Les os en sont brisés. Le chevalier s'évanouit, mais il revint bientôt à lui, à l'aide de quelques liqueurs spiritueuses, et déclara sans se plaindre qu'il n'avait point de complice. On lui donna pour confesseur et pour assistant un dominicain.
Note 23.
Ami de sa tante, l'abbesse, avec lequel il avait souvent soupé dans le couvent. Ce bon homme pleurait, et le chevalier le consolait. On leur servit à dîner. Le dominicain ne pouvait manger. « Prenons un peu de nourriture, » lui dit le chevalier. « Vous aurez besoin de force, autant que moi, pour soutenir le spectacle que je vais donner. »
Note 24.
Le spectacle, en effet, était terrible. On avait envoyé de Paris 5 bourreaux pour cette exécution. Je ne puis dire, en effet, si on lui coupa la langue et la main.
Note 25.
Tout ce que je sais par les lettres d'Abbeville, c'est qu'il monta sur l'échafaud avec un courage tranquille, sans plainte, sans colère et sans ostentation. Tout ce qu'il dit aux religieux qui l'assistaient se réduit à ces paroles. Je ne croyais pas qu'on pût faire mourir un gentilhomme pour si peu de choses. Il serait devenu certainement un excellent officier. Il étudiait la guerre par principe. Il avait fait des remarques sur quelques ouvrages du roi de Prusse et du maréchal de Saxe, les deux plus grands généraux de l'Europe. Lorsque la nouvelle de sa mort fut reçue à Paris, le nonce dit publiquement qu'il n'aurait point été traité ainsi à Rome, et que s'il avait avoué ses fautes à l'Inquisition d'Espagne ou de Portugal, il n'eût été condamné qu'à une pénitence de quelques années.
Note 26.
Je laisse, monsieur,
note 27,
à votre humanité et à votre sagesse, le soin de faire des réflexions sur un événement si affreux, si étrange, et devant lequel tout ce qu'on nous conte des prétendus supplices des premiers chrétiens doit disparaître. Dites-moi quel est le plus coupable, ou un enfant qui chante 2 chansons réputées impies dans sa seule secte, et innocente dans tout le reste de la terre, ou un juge qui ameute ses confrères pour faire périr cet enfant indiscret par une mort affreuse. Le sage et éloquent marquis de Vauvenargues a dit.
Note 28.
Ce qui n'offense pas la société n'est pas du ressort de la justice. Cette vérité doit être la base de tous les codes criminels. Or, certainement, le chevalier de la Barre n'avait pas nui à la société en disant une parole imprudente à un valet, à une tourière, en chantant une chanson. C'étaient des imprudences secrètes dont on ne se souvenait plus. C'étaient des légèretés d'enfants oubliées depuis plus d'une année et qui ne furent tirées de leur obscurité que par le moyen d'un monitoire qui les fit révéler. Monitoire fulminé pour un autre objet. Monitoire qui forma des délateurs. Monitoire tyrannique, fait pour troubler la paix de toutes les familles. Il est si vrai qu'il ne faut pas traiter un jeune homme imprudent comme un scélérat consommé dans le crime, que le jeune monsieur d'Étalonde, condamné par les mêmes juges à une mort encore plus horrible, a été accueilli par le roi de Prusse et mis au nombre de ses officiers. Il est regardé par tout le régiment comme un excellent sujet. Qui sait si un jour il ne viendra pas se venger de l'affront qu'on lui a fait dans sa patrie ? L'exécution du chevalier de la Barre consterna tellement tout Abbeville et jeta dans les esprits une telle horreur que l'on n'osa pas poursuivre le procès des autres accusés.
Vous vous étonnez, sans doute, monsieur,
qu'il se passe tant de scènes si tragiques dans un pays qui se vante de la douceur de ses mœurs, et où les étrangers même venaient en foule chercher les agréments de la société. Mais je ne vous cacherai point que, s'il y a toujours un certain nombre d'esprits indulgents et aimables, il reste encore dans plusieurs autres un ancien caractère de barbarie que rien n'a pu effacer. Vous retrouverez encore ce même esprit qui fit mettre à prix la tête d'un cardinal premier ministre et qui conduisait l'archevêque de Paris, un poignard à la main, dans le sanctuaire de la justice.
Certainement la religion était plus outragée
par ces deux actions que par les étourderies du chevalier de la Barre. Mais voilà comme va le monde. Ilie crucem sceleris pretium tulit, hic diadema.
Juven, sat 13, v. 105.
Quelques juges ont dit que, dans les circonstances présentes, la religion avait besoin de ce funeste exemple. Ils se sont bien trompés. Rien ne lui a fait plus de tort. On ne subjugue pas ainsi les esprits. On les indigne et on les révolte. J'ai entendu dire malheureusement à plusieurs personnes qu'elles ne pouvaient s'empêcher de détester une secte qui ne se soutenait que par des bourreaux. Ces discours publics et répétés m'ont fait frémir plus d'une fois. On a voulu faire périr, par un supplice réservé aux empoisonneurs et aux parricides, des enfants accusés d'avoir chanté d'anciennes chansons blasphématoires, et cela même a fait prononcer plus de 100 000 blasphèmes. Vous ne sauriez croire, monsieur, combien cet événement rend notre religion catholique romaine exécrable à tous les étrangers. Les juges disent que la politique les a forcés à en user ainsi. Quelle politique imbécile et barbare ! Ah, monsieur, quel crime horrible contre la justice de prononcer un jugement par politique, surtout un jugement de mort, et encore de quelle mort ! L'attendrissement et l'horreur qui me saisissent ne me permettent pas d'en dire davantage. J'ai l'honneur d'être, etc. Fin de la relation, etc.